OK, il y avait un point de presse, il y a un point de presse toujours en cours qui a commencé à 17h. Le premier ministre Legault, là, qui est encore en train de répondre à des questions jusqu'à tout récemment. Et on va faire le résumé avec Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale. Salut Louis.
Oui, bonjour Patrick.
OK, d'abord, peut-être un petit résumé là, des mesures d'allègement, de relâchement, disons, oui. À la veille de la relâche.
Bon, alors, c'est pas très compliqué. Là, il n'y a pas tant de mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, sauf peut-être l'idée de permettre aux gens d'avoir un peu plus d'air, d'espace, si on veut, pendant la période de la semaine de relâche. Donc, les activités piscines, les patinoires également, les cinémas, ça va être ouvert. Pour les bulles familiales, si on veut, les activités familiales, le patinage libre, ces choses-là, ça va être permis. Il y aura davantage de liberté également pour les activités extérieures. On pourra se regrouper jusqu'à 8 personnes à l'extérieur pour faire des activités. M. Legault a également dit que si vous louez un chalet, ben, si vous respectez les bulles familiales et si vous respectez le couvre-feu, c'est permis. Mais ça va être surveillé, selon ce qu'a dit M. Legault, parce que les policiers ne vont pas faire de barrage, mais s'assurer là, que les gens dans les secteurs de villégiature, les hôtels, les endroits où on loue beaucoup de chalets dans les régions touristiques, vont être visités par des policiers pour s'assurer que, justement, les bulles familiales soient respectées. Alors ça, il y a été beaucoup question de ça, mais il a été question également des fameux variants, parce que là, oui, les chiffres sont à la baisse, puis nettement, là, depuis quelques jours, mais on a une hausse du nombre de variants qui sont détectés dans la région de Montréal, principalement dans la région de Montréal. Il y a 16 cas identifiés par séquençage de variants britanniques. Il y a 86 cas également qui sont suspectés d'être des variants, qui sont sous enquête. Donc, alors, on aura davantage de chiffres là-dessus, là, sur les projections demain, parce qu'on va nous faire une espèce de résumé de tout ça. Moi, j'ai posé la question à M. Legault aujourd'hui parce que il y a des chercheurs au Québec, dont le Dr Gary Kobinger, là, qui est chercheur à l'Université Laval, spécialiste des vaccins. C'est lui qui a trouvé le vaccin Ebola, qui l'a développé. C'est quand même quelqu'un qui s'y connaît, là. Et il y a d'autres médecins, d'autres chercheurs également à Québec, à l'université, qui disent il faudrait peut-être assurer notre autonomie en termes de création et de production de vaccins. Alors, M. Legault est loin d'être contre l'idée. Selon lui, il faut développer davantage tout ce qui est autonomie en termes de santé. On sait là qu'on avait eu des problèmes d'approvisionnement en équipement. Bon, on a développé maintenant des capacités de production pour des masques, etc. Et on voudrait faire la même chose pour les vaccins, selon ce qu'a dit M. Legault et Christian Dubé. On est prêt à appuyer les initiatives du Dr Kobinger, prêt également à explorer différentes avenues là pour permettre d'avoir peut-être un centre de production de vaccins qui pourrait faire en sorte qu'éventuellement tu peux négocier avec une compagnie comme Pfizer et dire « ben c'est beau, vous avez une recette, donnez-la nous, on va la produire chez nous ». Pour s'autosuffire en termes de vaccins, pour ne plus être dépendant, autrement dit, des commandes qui viennent de l'étranger. Ça, il en a été question tout à l'heure. M. Legault est très ouvert à ça. On a aussi parlé, parce que là, il y a des gens qui se posaient la question, pourquoi est-ce qu'on permet d'ouvrir les cinémas tout en respectant, bien sûr, les mesures sanitaires, là, c'est-à-dire la distanciation, le port du masque de procédure, et pas les salles de spectacle. Alors, M. Legault a répondu à ça que c'est plus facile d'ouvrir les salles de cinéma parce qu'on peut avoir les films rapidement, mais pas les salles de spectacle. C'est difficile de dire, par exemple, à un opérateur de salle, mais pour la semaine prochaine, peux-tu nous prévoir des spectacles? Alors, c'est plus compliqué. Alors, on a également dit que c'est plus facile aussi, c'est plus simple, là, parce qu'on veut favoriser les activités familiales, de permettre aux gens d'aller au cinéma. C'est beaucoup plus simple que des salles de spectacle. Donc, c'est les raisons qui ont motivé ces choix-là.
Très bien. Merci beaucoup, Louis. Bonne soirée.
Fait plaisir à toi aussi.
Salut, c'était Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco à l'Assemblée nationale. Je me tourne maintenant vers Roxane Borges da Silva. Vous la connaissez, professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Professeure da Silva, bonsoir.
Bonsoir, M. Agacé.
Donc, d'abord, peut-être un commentaire général sur les mesures de relâchement là, qui ont été permises par le gouvernement.
Mais c'est sûr que le gouvernement a décidé de relâcher pendant la relâche, justement, pour pouvoir permettre aux gens de trouver des activités, d'avoir un plus grand éventail d'activités pendant la relâche. Mais il faut savoir que quand même, avec ces variants, c'est bien important de respecter les mesures sanitaires, les 2 mètres, etc. Moi, j'ai une certaine inquiétude parce qu'il pourrait y avoir une éclosion dans un cinéma et on se retrouve une personne contagieuse dans un cinéma qui fasse une, en fait, soit à l'origine d'une éclosion. Et en fait, les variants sont 50 à 80% plus contagieux, ce qui fait que ça pourrait monter en flèche le nombre de cas. Donc, c'est surtout ça qu'il faut vraiment contrôler et vérifier.
Mais si tout le monde porte son masque et respecte la distanciation dans un cinéma, là, puis on comprend que dans les cinémas, professeur Da Silva, on va pas être cordés là, chacun à côté de l'autre. Là. Si tout le monde porte son masque, même si quelqu'un dans la salle est contagieux, est-ce que les risques sont quand même limités?
Les risques sont dans une certaine mesure limités à condition qu'il n'y ait personne dans la phase d'hypercontagiosité. Et là, je cite mon collègue Dr Marchand qui nous explique que pendant cette période d'hypercontagiosité qui dure de 24 à 72 heures dans l'évolution de la maladie, on peut se retrouver, même avec un masque, à moins d'avoir un masque N95, on peut se retrouver à contaminer toutes les personnes dans la place. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un petit risque, très léger risque, mais un petit risque.
Trouvez-vous que c'est un risque qui est acceptable?
Mais ça dépend des individus. Pour moi, il ne l'est pas. Moi, je fais partie des riscophobes, donc des gens qui ont peur du risque. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à la maison et qui ont besoin de sortir beaucoup plus que peut-être moi. Et donc, ils font que ces gens-là, ça va leur faire du bien d'aller au cinéma. Et le bénéfice qu'ils vont retirer à aller au cinéma est supérieur au risque, à la valeur du risque en fait associé à attraper la COVID.
OK, parlons des sports, OK? Parce qu'on déconfine un peu le sport. Le sport intérieur en bulle familiale va être permis, mais pas de sport organisé, par exemple, des ligues de hockey. Est-ce que ça, à votre sens, en votre avis d'experte en santé publique, est-ce que c'est un risque qui est acceptable?
Mais le sport en intérieur, en bulle familiale, c'est encore la même chose que dans les cinémas. C'est-à-dire que, en plus, quand on fait du sport en intérieur, on est en hyperactivité. Donc, on va expirer beaucoup plus et souffler beaucoup plus. Et donc, là encore, si on a un super contagieux dans la place, ben, il pourrait contaminer les autres, même si on est à 2 mètres. En extérieur, par contre, pour moi, il y a beaucoup moins d'enjeux, puisque le virus se dilue beaucoup plus rapidement dans l'air, et particulièrement quand il fait moins 10 ou moins 20 dehors.
Donc, le sport extérieur, je posais la question tantôt à Dr Gaston Deserre de l'INSPQ, et je lui demandais quels sont les risques à pratiquer des sports en extérieur, même à plus de 4 et même à plus de 8 personnes.
Et qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Ben, il m'a répondu qu'à l'extérieur, c'était moins grave, mais il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de palmarès des sports les plus dangereux. Et moi, je dois vous poser la question, je trouve ça un peu absurde de voir qu'à ma patinoire du coin, là, par considération sanitaire, la ville a retiré les buts de hockey.
Mais ça, c'est très dommage quand même, parce que c'est quand même une activité, comme je vous le dis, bon, c'est sûr, il faut, si on a un hyper contagieux en extérieur qui souffle sur un autre et plusieurs fois, il va le contaminer. Mais sinon, quand on fait du sport, on bouge beaucoup, on reste pas sur place et on souffle pas tant sur les autres, si je peux dire. Bon, peut-être en hockey, c'est sûr qu'il y a des bagarres là, mais en tout cas, mais dans ce contexte, moi, j'aurais tendance à beaucoup plus autoriser les sports en extérieur que les sports en intérieur, c'est sûr.
Donc, même de l'autoriser à 8, on est. Est-ce que vous estimez qu'on est encore trop prudent vu, disons, le peu de dangerosité de l'activité extérieure?
Bien, pour des questions de santé mentale, j'aurais beaucoup plus insisté sur le sport à 10 ou à 12, disons, plutôt que réouvrir des cinémas ou des endroits, milieux clos, qui pourraient être des milieux de contagion parce qu'il y a beaucoup moins d'aération.
OK. Il y a beaucoup de gens qui réclamaient des barrages entre les régions orange et rouge pour protéger les régions orange. Pensez-vous que c'est une bonne idée de ne pas mettre de policiers aux frontières?
Mais en fait, je pense que c'est surtout très difficile parce qu'on a des voies principales, mais on a aussi tellement de voies secondaires qu'il est vraiment facile de passer outre ces barrages en passant par les rangs, si je peux dire. Donc du coup, ça aurait été des passoires. Pour une personne qui voulait passer d'une région à une autre, ça aurait été possible. Donc ça m'apparaît tellement difficile qu'il vaut mieux encourager les gens à ne pas le faire, dire que c'est non recommandé et puis y aller avec d'autres mesures.
On est sous la barre des 700 cas aujourd'hui recensés au Québec. Est-ce que c'est le calme avant la tempête ou c'est le signe d'une régression là, qui va être durable?
Non, je ne m'avancerai pas sur une régression durable avec les variants qui arrivent et qui sont vraiment prévalents. Ce que je dirais, c'est qu'il faut garder nos mesures en place, bien respecter les distances et faire attention parce qu'avec l'hypercontagiosité des variants, on pourrait avoir une progression de 700 à 2000 cas en quelques jours.
Merci, Dr Da Silva.
Je vous en prie, bonne journée.
Salut, c'était Dr Roxane Borges Da Silva. professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Maintenant, on va parler avec Luc Degary, il est président de l'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice. Il y a quelques jours, cette association a fait une sortie, a interpellé le gouvernement, a plaidé devant le gouvernement là, publiquement pour qu'on déconfine le sport, parce que, disent ces médecins-là, écoutez, oui, c'est vrai qu'il faut garder nos distances, il faut rester sanitairement correct, mais il y a beaucoup de gens qui sont guettés par les dangers de la sédentarité. Salut, Dr. Guy Degary.
Bonsoir, M. Lagacé.
OK, vous avez écouté le point de presse. Qu'est-ce que le médecin du sport en vous a pensé en entendant là, ce qui a été proposé?
Bien, vous savez, avec tous les pressions qu'on a fait depuis les derniers mois, avec les recommandations qu'on a données, ça donne une lueur d'espoir pour, dans le fond, la population en général. J'écoutais là, vos commentaires dans les dernières minutes, la dernière heure. Il y avait plein de questions là, que vous avez posées qui étaient intéressantes. Bon, on s'entend que les risques à l'extérieur sont très, très, très minimes. On vient d'écouter Mme professeure Da Silva qui expliquait que les risques à l'extérieur, là, on s'entend, sont très minimes. Il faut encourager les sports extérieurs. Ça, c'est la priorité. OK? Mm-hmm. Donc, d'avoir accepté ou d'avoir autorisé des activités à plus que 4, donc à 8, déjà là, ça permet d'avoir des activités organisées qui sont... déjà, qui peuvent permettre aux gens de socialiser, mais d'une façon sécuritaire. Tu sais, le mot d'ordre dans toute cette situation-là, c'est de déconfiner les sports, mais de façon sécuritaire. Donc, la priorité, c'est que les gens respectent les recommandations. Donc, à l'extérieur, allez-y, c'est important, ça va faire du bien. Vous respirez de l'oxygène, puis justement, le virus, c'est comme si on met des gouttes d'arsenic dans une piscine, ça va se diluer tellement que on diminue énormément les risques de contagion. Mmh. Donc, okay. Ça, c'est la première chose.
La deuxième?
La deuxième, si on va à l'intérieur, là, comme vous voyez, on a recommandé, ou en fait, les autorisations qui ont été faites, c'est pour les piscines intérieures et les patinoires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gens ne peuvent pas, à la patinoire, aller se retrouver une dizaine dans un vestiaire pour se changer. C'est là que les risques vont être exponentiels, oui, en termes de contagion. Okay? Surtout si les gens ne respectent pas les bulles familiales.
OK. Dites-moi, je veux vous entendre. Là. Vous êtes médecin du sport, mais vous êtes médecin de famille, là, si je comprends bien, à Laval. C'est la différence, disons, là, entre votre clientèle aujourd'hui, février 2021, et février 2020, avant la pandémie. Comment ça affecte le physique des gens et le mental des gens?
La liste est très longue. On pourrait en parler pendant des heures. Par contre, ce qu'on voit là rapidement, c'est la détérioration au niveau de la santé mentale. Les gens souffrent énormément de l'isolement. Oui, il y a certaines personnes que le télétravail sont bien heureux puis sont confortables, mais je vous dirais qu'il y a une grande partie de la population qui font du télétravail qui en souffre énormément. Donc, déjà là, d'avoir une activité sportive, une activité à l'extérieur va permettre de briser cet isolement-là. Fait que ça, c'est déjà ce qu'on voit là, rapidement, autant dans le sans rendez-vous. Dernièrement, là, je faisais 2 à 3 arrêts de travail, des gens qui souffraient de santé mentale, plus capables de travailler, des problèmes d'anxiété, tout ça. Donc ça, c'était ce qu'on voit le plus rapidement. Maintenant, ce qu'on commence à voir, c'est toutes les décompensations au niveau des maladies chroniques. Qu'on parle d'hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires et aussi de l'arthrose. Bon, mm-hmm. dans le milieu dans lequel j'œuvre, je vous dirais que dans ma semaine, ma moyenne d'âge de population, c'est en haut de 65 ans. Okay? Donc, oui, je travaille avec des athlètes de haut niveau pour une certaine partie de ma pratique, mais la majorité de ma pratique, c'est vraiment des sportifs amateurs, des gens qui aiment ça, jouer au pickleball, aller faire de l'aquaforme, tout ça, et ces gens-là qui réussissaient à garder une certaine santé physique, donc contrôler leur diabète, réussissaient à contrôler leur poids, leur pression artérielle et leur arthrose, ces gens-là souffrent énormément, donc les douleurs chroniques reviennent de plus en plus. Et là, on surajoute à tout ça cette détérioration-là au niveau de l'arthrose, et les retards en chirurgie pour les gens qui arrivent avec des arthroses très avancées. Donc, on est pris un peu là, dans une spirale là, qui tourne en rond. Fait que ce qu'on a eu là aujourd'hui, la bonne nouvelle, on a eu une rencontre avec la ministre Charest. On a été capable d'avoir une discussion là, ouverte qui a été très, très positive. On a déjà émis des pistes de solutions. On est entendu. Donc, Vraiment, aujourd'hui, moi, je suis très heureux de la tournure là, de la situation.
Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.